Bonjour à tous. La chronique philothérapeutique de ce matin nous est inspirée par le constat d'un ami et collègue professeur de philosophie. Constat qu'il en était, selon lui en tout cas, de la même façon dans la lutte politique comme dans la guerre. Pour dire que dans les deux cas, le plus fort en vient toujours à anéantir définitivement le plus faible. Alors, c'est lorsqu'il nous fit ce mot, ce collègue, que nous revint à l'esprit le mot d'un certain Louis Lazarus, journaliste, essayiste, biographe et romancier français, affirmant que, j'ouvre les guillemets, il n'en va point dans la lutte politique comme à la guerre. Le parti politique devient plus redoutable après sa défaite. Il lui suffit pour cela de ramasser les armes que les vainqueurs ont dû troquer contre les insignes du pouvoir. Fin de citation. C'est un extrait de son ouvrage publié en 1928, donc par Louis Lazarus, intitulé justement La politique. Une grille de lecture que nous appliquâmes volontiers à notre histoire politique de 1960 à aujourd'hui, pour faire à notre vaillant et brillant collègue de philosophie les remarques suivantes. Que Senghor, en tout premier, troqua volontiers tous les bénéfices de la négritude et tous les avantages du socialisme, dont il se fit par ailleurs bruyamment les chantres, contre une fausse accession à la souveraineté internationale, en capitulant, mais vous comprenez, pour avoir la garantie du soutien de la puissance coloniale, pour véritablement accoucher d'une souveraineté qui, en réalité, était capitulation et allégeance à la mère patrie, la France, c'est-à-dire à ses intérêts militaires, mais surtout à ses intérêts économiques. Deux décennies plus tard, le fameux « les Sénégalais sont fatigués » d'un certain juge Kébambaye contraindra le poète président lui-même à la démission. Comprenez par là, mais que véritablement l'orientation et le marasme économique dans lequel le pays plongeait, ainsi que la montée d'une jeunesse de plus en plus consciente d'elle-même et véritablement révoltée, contraindront donc le président poète à s'en aller. Abdou Diouf de s'emparer des armes troquées par son maître, El Senghor, contre les insignes du pouvoir, pour en appeler justement au fameux sursaut national, lequel sursaut passera par des états généraux de tout et de rien, éducation, santé, politique, économique, avec pour couronner le tout une cour de répression de l'enrichissement illicite, vous en souvenez. La suite est déjà connue. Diouf, pour éradiquer la colère grandissante du peuple, déjà sous Senghor, donc pour éradiquer la colère grandissante du peuple et en particulier de sa jeunesse, cédera à la pression également des institutions de Bretton Woods, institutions qui se virent confier tranquillement toute la politique et la destinée même économique du pays. Ouad, à son tour, de s'armer des compromissions doufiennes devant le FMI et la Banque mondiale pour véritablement consacrer son magistère à, disait-il, tenter de rétablir les grands équilibres macroéconomiques, mais en même temps qu'il rétablissait les grands équilibres macroéconomiques, il nous annonçait la promesse, en tout cas ferme, qui était la sienne, et la volonté qui était la sienne, de redistribuer plus équitablement les richesses. La suite également, on la connaît. Ouad créera plus de riches sortis du néant que véritablement de richesses et échouera à consolider véritablement la démocratie. De même, sorti tout droit des flancs du wadisme, Macky Sall, à son tour, de se saisir des armes troquées par Ouad pour les insignes du pouvoir. En effet, Ouad renonça à toutes ses promesses et à son projet d'une société sénégalaise engagée à corriger les dérives de 40 ans de gestion par le parti dit socialiste. Ouad donc renonça à la politique d'austérité qui s'imposait à lui sous la pression non seulement mais de ses compagnons de combat qui eux, en regardant et en considérant tragiquement et méchamment l'âge de leur leader, se distinguaient par leur volonté d'accaparement des richesses, mais également par une boulimie foncière sans précédent dont nous payons encore les contre-coups. Et donc, c'est pourquoi, à l'avènement de Macky Sall, cela donna tout le sens au fameux slogan qui inaugura sa gestion, à savoir la patrie avant le parti, et à savoir également gestion sobre et vertueuse. On connaît la suite. Macky Sall sera perdu, comme son prédécesseur et mentor Ouad, par la tentation de l'autoritarisme, par la tentation de la dérive hégémonique sur fond de troisième mandat, mais également par le fossé toujours plus grand entre gouvernements et gouverner. Osons le dire, forfaiture et farberie, pardonnez-moi le barbarisme, qui conduisirent, comme par une fatalité inexorable, qui conduisirent donc le président Macky Sall au sabordage que l'on connaît. Et puis peut-être léguera à la postérité son fameux manuel. Macky Sall léguera à la postérité un tout autre manuel. Mais véritablement, vous le savez, ce manuel n'est autre que celui véritablement du Cap. Et un manuel du Cap qui permet également de montrer en quoi également il y aura une compromission autre. Mais cette compromission autre-là, elle s'adressera non pas à lui seul, mais également à la destinée future véritablement de ceux qui vont hérité des affaires de la cité. En effet, ces armes-là, Diomaye et Sonko vont les ramasser volontiers entre interminables palabres diurnes et subreptices allers-retours nocturnes du nord au sud et du sud au nord. Vous l'avez compris, le destin politique du duo Diomaye Sonko se lit déjà parce qu'il est écrit en toutes lettres dans les termes du pacte d'alliance du Cap Manuel. Il y a fort à parier que pour les enfants gâtés de l'informatique, du numérique et du digital, le recours au manuel, sans jeu de mots, le recours au manuel, il y a donc fort à parier qu'il ne soit en même temps leur future oraison funèbre. Bonne journée à Sadi qui bien nous entendra.